Séquence pour comprendre et débattre proposée par Paul Masson et Radio PFM. Paul Masson, bonjour.
Bonjour.
Donc, je rappelle une nouvelle fois que vous êtes formateur d'adultes, militant de l'éducation populaire, membre de Culture et Liberté et d'Attaque. On vous retrouve pour cette sixième séance sur la thématique de la Constitution européenne, séquence diffusée chaque mardi dans la tranche d'info locale de Radio PFM à 7h30, 12h30 et 18h30. Sixième séquence pour inviter à la discussion autour du prochain référendum sur la Constitution. Il est important de préciser à nouveau que ces séquences ont pour but d'informer et non d'essayer d'orienter l'auditeur sur tel ou tel choix. Puis je rappelle également que vos questions à vous, auditeurs de PFM, sont les bienvenues par téléphone au 03 21 50 99 99 ou sur le mail pfm@nornet.fr. Alors Paul, on va peut-être rappeler les conclusions qu'on a tirées des différentes séquences précédentes. Une séquence qui était consacrée aux politiques de l'Union européenne, donc la troisième partie de ce traité constitutionnel.
Oui. Effectivement, la dernière fois, on a vu que, autour d'objectifs relativement généraux qui avaient été au consensus et où on avait réussi à mettre un petit peu tout ce que tout le monde voulait, on s'est aperçu que la Constitution qui nous est demandée d'adopter, le texte qui nous est demandé d'adopter, opérationnalisait l'article 1.4 qui était la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux et la liberté d'installation, cette partie-là, puisque c'était ça qui était garanti par l'Union, donc elle met en place des politiques pour pouvoir garantir ça. On avait vu que sur cette libre circulation avait des incidences sur des sujets sensibles tels que les services publics, et que par rapport à des choses comme ça, le texte prévoyait des dérogations, hein, c'est l'article 367, à condition que ces dérogations soient temporaires et perturbent le moins possible le marché. C'est l'article 330. On a vu aussi que cette libre circulation des services, ce n'était pas quelque chose de nouveau, c'était quelque chose de relativement ancien dans l'Europe et que, par exemple, les réformes de la sécurité sociale étaient nécessaires pour permettre la libre circulation des services des assurances. Comment peut-on avoir un libre service des assurances s'il y a une protection sociale qui permet de ne pas passer par les assurances? Que ça avait eu des effets aussi au niveau des retraites. On va parler de libre circulation des capitaux, mais dans la mesure où les retraites sont assurées par la retraite par répartition, les capitaux ne peuvent pas se positionner dans ça, et la réforme de la retraite a permis le fait que les capitaux puissent se positionner sur le secteur des retraites. Donc on a vu un petit peu ça. Aujourd'hui, on va travailler plus sur les institutions.
Alors oui, justement, le thème de cette séquence, c'est donc, vous l'avez dit, les institutions européennes, puisque c'est l'un des grands enjeux de ce traité. Alors c'est peut-être important de retracer l'historique de ces institutions et puis de rappeler quelles sont-elles, ces institutions?
Alors, effectivement, les institutions que nous propose le projet de constitution ne sont pas neuves. Les institutions ont été mises en place en 1967. Le projet de traité ne modifie pas les institutions. Hein. On a le Conseil européen, qui réunit les chefs d'État et gouvernement. On a la Commission, qui est chargée à la fois de faire des propositions, prendre des initiatives, d'exécuter le budget et les programmes, et de veiller à son application, le Parlement, le Conseil des ministres qui font la loi, et la Cour de justice qui est chargée de juger. Alors, le Conseil européen, c'est la réunion des chefs d'État et de gouvernement. Au départ de toute initiative européenne, c'est de lui que ça vient, puisque c'est le Conseil européen qui est chargé de donner les impulsions et les orientations. Quand quelque chose se met en place au niveau de l'Europe, c'est parce que les chefs d'État et de gouvernement l'ont décidé. On retrouve ça dans l'article 1.21, qui précise le rôle de chacun. Une fois que les chefs d'État et de gouvernement ont donné des impulsions, ont donné des orientations, c'est à la Commission que revient le soin de prendre les initiatives. C'est-à-dire la Commission, qui sont des hauts fonctionnaires nommés par le Conseil européen, eux sont chargés de prendre l'initiative de, jusque-là ça s'appelait des directives, et quand on parle des directives européennes, en fait on parle des lois européennes. Dans le nouveau traité, on n'utilisera plus le terme directive, on va parler de loi ou de loi d'orientation. Hein? Donc la Commission va prendre des initiatives, de faire des propositions, et elle va soumettre ça à deux instances, au Conseil des ministres et au Parlement européen. Alors, il faut différencier le Conseil et le Conseil des ministres. Le Conseil, c'est les chefs d'État et de gouvernement qui fixent des orientations. Les chefs d'État et de gouvernement ne font pas la loi. Ils disent que c'est dans cette direction qu'il faut aller. La Commission fait des propositions au Conseil des ministres et ça va être le Conseil des ministres qui fait la loi avec le Parlement. Les deux instances ont la même fonction. Elles exercent conjointement les fonctions législatives et budgétaires, les deux instances. Une fois que le Parlement et le Conseil des ministres ont fixé la loi, la Commission est chargée d'exécuter les programmes et d'exécuter le budget. Et la Commission va aussi avoir pour rôle de veiller à l'application des lois et des directives qu'elle aura proposées. Depuis 1967, on a la Commission, le Conseil des ministres, le Parlement européen, la Cour de justice, déjà à cette époque-là. Hein? Ça, c'est les fonctions qui ont été attribuées à chacun ont évolué avec le temps. Et on peut dire que depuis le début de l'Europe, la part démocratie a plutôt évolué positivement. Lorsque l'Europe se crée en 1951, on sort de la guerre. D'aller demander au peuple français et au peuple allemand de se mettre d'accord sur une politique commune, les peuples en étaient très loin. Et on peut dire que l'Europe qui se met en place n'est pas du tout une Europe des peuples. C'est une volonté des États d'organiser l'Europe. Donc l'Europe, au tout départ, le Parlement, il n'y a pas de Parlement européen, il y a une représentation des parlements nationaux qui est seulement consultatif. Et il faudra attendre 1979 pour que le Parlement soit élu au suffrage universel. Le Parlement élu au suffrage universel va voir d'un traité sur l'autre son rôle relativement augmenté. Dans ce traité, on en arrive à ce que le Parlement ait le même pouvoir que le Conseil des ministres. Dans l'article 1.20 et 1.23, on dit que le Parlement exerce conjointement avec le Conseil des ministres les fonctions législatives et budgétaires. Et dans le 1.23, on va dire que le Conseil des ministres exerce conjointement les fonctions législatives et budgétaires avec le Parlement. Les deux instances, donc, vont se mettre d'accord concernant les lois. On peut dire qu'on va avoir, au niveau des institutions, des représentations des États. La représentation des États est liée au Conseil européen, c'est-à-dire qui réunit les chefs d'État et de gouvernement. Et on va retrouver la représentation des États dans le cadre des conseils des ministres, qui, eux, font la loi avec le Parlement. Et on va avoir une représentation des peuples. La représentation des peuples, elle passe par les élections, et c'est le rôle du Parlement européen. Entre les États et les peuples, les institutions donnent priorité aux États, puisqu'en fin de compte, c'est les États qui décident les orientations par le biais des chefs d'État. On va avoir aussi un poids très important de la technostructure qui est liée à la Commission. La Commission ne fait pas ce qu'elle veut. Elle est chargée de mettre en œuvre des orientations qui sont définies par les chefs d'État et de gouvernement. Mais une fois que les chefs d'État ont décidé les orientations, c'est la Commission qui a, et elle seule, qui a le pouvoir d'initiative. Dans le cadre des orientations qui sont fixées, il n'y a que la Commission, que les fonctionnaires qui ont le droit de faire les initiatives, ce qui correspondrait à nos propositions de loi. Les députés n'ont pas la possibilité de faire des propositions de loi. Ils devront se positionner par rapport à des propositions de loi qui sont faites par ces fonctionnaires. Pour illustrer ça, je vais reprendre la directive Bolkestein, dont on parle directement. S'il y a eu une directive Bolkestein, c'est parce que les chefs d'État et de gouvernement, pour la France, c'était Chirac et c'était Jospin, ont décidé qu'on allait dans la direction de libéralisation des services. Ça a été décidé par les chefs d'État, ça n'a pas été décidé par les fonctionnaires. Monsieur Bolkestein, qui était commissaire à cette époque, a mis en œuvre cette orientation. Et il fait une directive qui dit, si on veut mettre en place la libéralisation de l'économie, eh ben on va demander à ce que la législation s'appuie sur le pays d'origine. Ça veut dire que si une entreprise a son siège social en Lettonie, ça sera la législation de Lettonie qui viendra s'appliquer pour les personnes qui, à l'intérieur de l'Europe, travailleront pour l'entreprise dont le siège est en Lettonie. Ça vient de sortir, alors les gens s'en saisissent, mais cette directive Bolkestein, c'est en janvier 2004 qu'elle est passée au Conseil. C'est pas nouveau, c'est pas... Et le commissaire européen qui met en œuvre cette directive met en œuvre ce que l'on lui a demandé de mettre en œuvre. C'est à la fois important de saisir le poids énorme de la Commission, puisqu'elle a à la fois l'initiative des lois, à la fois elle est chargée d'exécuter le budget et les programmes, et à la fois elle veille à son application. C'est-à-dire que c'est elle qui va contrôler les États, veiller que ce que les États appliquent ce qu'ils ont décidé. Elle a un pouvoir énorme, cette Commission. Mais elle fait les orientations qui ont été définies par les États. Elle ne peut pas aller au-delà. Et les États ne peuvent pas se réfugier derrière, c'est la faute au commissaire. Le commissaire, il le fait que ce qu'on lui demande de faire.
On entend beaucoup l'argument que le rôle du Parlement va être accru avec cette Constitution. Qu'en est-il vraiment ?
Le Parlement, effectivement, a davantage de rôle, puisque maintenant, il est co-décideur de la législation avec le Conseil des ministres. Ce n'est pas complètement nouveau, ça existait depuis le précédent traité dans certains domaines. Le nombre des domaines où le Parlement est co-décideur avec le Conseil des ministres a tendance à augmenter. Donc effectivement, le Parlement a un peu plus de poids dans ce cadre-là. Mais c'est un poids relativement limité puisque les propositions de loi ne peuvent que venir de la Commission. C'est-à-dire qu'il n'a toujours pas la possibilité de dire « voilà des propositions de loi ». Deuxièmement, la Commission ne sollicite, ça c'est l'article 1.26.7, et n'accepte d'instruction d'aucun gouvernement, ni institution, organe ou organisme. C'est-à-dire que c'est la Commission seule qui a le pouvoir d'initiative. Le Parlement n'a pas possibilité de faire valoir son droit outre mesure. Hein. Enfin, le Parlement est co-décideur avec le Conseil des ministres. Le Parlement ne peut que se prononcer sur ce que la Commission veut bien donner, veut bien lui demander de se prononcer, et il doit y avoir accord entre le Parlement et le Conseil des ministres. Si le Conseil des ministres n'est pas d'accord, eh bien, il a la possibilité, s'il y a un désaccord, il peut retirer le texte. Voilà, pour ce qui est de ce pouvoir du Parlement.
Alors une autre institution européenne dont on n'a pas parlé pour l'instant dans cette séquence, c'est la Banque centrale.
Alors, la Banque centrale européenne, c'est le traité de Maastricht qui l'a mis en place. Et ce traité constitutionnel va reprendre et accentuer le pouvoir de cette Banque centrale. On est dans la situation en Europe où la Banque centrale et les banques nationales conduisent la politique monétaire de l'Union, l'article 1.30. C'est-à-dire que les États décident collectivement, pour tous ceux qui sont dans l'Union et qui disposent de l'euro, de se déposséder de conduire la politique monétaire. Et ils demandent que la politique monétaire soit conduite, non pas par une autre instance élue, que l'État français dise « on a une monnaie commune et que ce ne soit pas au niveau de la France » qu'on conduise la politique monétaire, c'est parfaitement acceptable si on a une monnaie commune. Ce qui est plus difficile à comprendre, c'est que la politique monétaire soit conduite par des banquiers et non plus par des politiques. La politique monétaire, c'est un moyen d'agir pour les politiques. Et la Constitution dit, c'est pas les politiques qui conduisent la politique monétaire, c'est la Banque centrale et les banques nationales qui conduisent la politique monétaire. 1.30, le système européen des banques centrales est dirigé par les organes de décision de la Banque centrale, qui sont le Conseil des gouverneurs et le Directoire. Pour conduire la politique européenne, c'est le Conseil des gouverneurs et le Directoire, c'est-à-dire c'est des hauts fonctionnaires du domaine des banques qui conduisent la politique monétaire. et les États sont dépossédés de leur politique monétaire. C'est un des éléments qui fait qu'un certain nombre de gaullistes historiques ont rué dans les brancards d'aller dire on ne peut pas accepter ce type de constitution. C'est Séguin qui s'était mis en bataille au moment du traité de Maastricht, c'est-à-dire les États se dépossèdent d'un outil économique qui est déterminant. Et le pouvoir de la Banque centrale va être relativement important. Et il est demandé, les gouvernements des États s'engagent à ne pas chercher à influencer les membres des organismes de décision de la Banque centrale européenne ou des banques centrales nationales. C'est l'article 388. C'est-à-dire, ce qui est dit dans la Constitution, c'est que les États n'ont pas le droit d'intervenir sur la Banque centrale européenne et sur leurs banques nationales. Le gouvernement n'a rien à dire à la Banque de France. Concernant la Banque centrale, en même temps, ce qui est dit, c'est qu'il a interdit à la Banque centrale européenne et aux banques centrales des États membres d'accorder des découverts ou tout autre type de crédit aux États membres. C'est l'article 381. C'est-à-dire qu'on a une Banque centrale, mais si les États ont besoin d'argent, la Banque centrale n'a pas le droit de leur accorder de crédit. On a une banque qui conduit la politique et qui ne peut pas aider les États à conduire leur propre politique. Et cette banque centrale, donc, c'est elle qui conduit la politique, et qu'est-ce qu'on lui donne comme directive? Eh bien, on lui en donne une seule directive. L'utilisation de la politique monétaire, elle doit contribuer. L'objectif principal du système européen des banques centrales est de maintenir la stabilité des prix. 385. Ce qui est demandé à la Banque centrale, c'est d'assurer la stabilité des prix. La seule politique qui est mise en avant, c'est la stabilité des prix. Il est admis, sans préjudice de cet objectif, le système des banques centrales peut apporter son soutien aux politiques économiques générales. C'est-à-dire, on peut envisager que la Banque centrale intervienne concernant l'emploi, à condition que ça ne aille pas contre la stabilité des prix. Vous voyez, la Banque centrale indépendante, détachée du pouvoir politique, avec pour seul objectif la stabilité des prix. Les politiques seraient plus sensibles aux politiques de l'emploi, ne serait-ce parce que c'est sur ça qu'ils vont gagner les élections. Les fonctionnaires ont la possibilité de conduire une politique budgétaire stricte, puisque, quoi qu'il en soit, le peuple ne peut pas les démettre, puisque c'est pas, ils passent jamais devant les électeurs. La directive Bolkestein, c'est pareil. Le commissaire Bolkestein, s'il avait à se représenter devant des électeurs, c'est pas sûr qu'il repasse. N'importe quel élu annonçant ça prendrait le risque de perdre les élections. Dans la mesure où on fait faire ça par un fonctionnaire qui ne passe jamais devant les électeurs, les politiques peuvent dire « mais c'est pas nous, c'est Bolkestein ».
Alors justement, beaucoup de monde en Europe se sent un peu peut-être loin de ces institutions européennes. On voit que les élections européennes mobilisent un électorat quand même assez réduit. On voit notamment en Espagne le référendum qui a conduit aux urnes seulement 42% des électeurs espagnols. Est-ce qu'on se dirige en Europe vers une démocratie plus participative ?
Les institutions européennes ne sont pas du tout une démocratie participative. Même l'aspect représentatif est très contestable, puisque les députés n'ont pas la possibilité de faire des propositions de loi. Donc l'idée de démocratie participative en Europe, c'est un leurre. Par contre, le terme de démocratie participative est utilisé dans la Constitution, c'est l'article 147.4. Dans le cadre de cette Constitution, cet article-là est un gadget. Je vous lis l'article. Des citoyens de l'Union, au nombre d'un million au moins, ressortissant d'un nombre significatif d'États membres, peuvent prendre l'initiative d'inviter la Commission, dans le cadre de ses institutions, à soumettre une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles ces citoyens considèrent qu'un acte juridique de l'Union est nécessaire aux fins de l'application de la Constitution. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les citoyens ont le droit de pétition. Ils l'avaient avant. Que ce droit de pétition, ils peuvent l'envoyer à la Commission pour inviter la Commission, c'est le terme, à soumettre une proposition appropriée. Pas une loi, une proposition appropriée. Ça peut être une loi, ça peut être un avis. Et c'est la Commission qui est invitée à y répondre, ou pas. Elle est invitée. Mais sur quoi les citoyens peuvent inviter la Commission à soumettre une proposition ? Sur ce qui est nécessaire à l'application de la Constitution. C'est-à-dire quelque chose qui concerne exclusivement la liberté de circulation des hommes, des marchandises, des services, des capitaux, liberté d'installation. Un nombre considérable de citoyens invitant la Commission à faire une proposition pour qu'on mette en place un SMIC sur l'ensemble de l'Europe, ben, se verra rejeté comme anticonstitutionnel, puisqu'on n'a pas le droit d'harmoniser les législations sociales. Le droit de pétition, incontestablement, le fait de faire en nombre et à l'échelle européenne une pétition, ça va jouer. Mais ça ne donne aucun pouvoir supplémentaire au peuple là-dessus. C'est un moyen de pression qui existait préalablement, qui continuera d'exister, que cet article soit passé ou pas.
Paul Masson, je vous remercie. Alors, il faut préciser que lors de la prochaine séance, on répondra aux questions et réactions des auditeurs, des questions et réactions sur ces séquences. Il est donc encore temps pour vous, auditeurs de PFM, de nous téléphoner au 03 21 50 99 99. N'hésitez pas à laisser vos messages, y compris sur le répondeur, ou sinon par email à l'adresse suivante, c'est pfm@nordnet.fr. Paul Masson, je vous remercie une nouvelle fois et puis je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même fréquence.